Réplique, modernité et modération avec Rémi Brague et Olivier Rey. Il y a dans l'essai d'Olivier Rey, une question de taille, une réflexion de Nietzsche qui pourrait figurer aussi bien dans celui de Rémi Brague, modérément moderne. Voici ce passage tiré de par-delà le bien et le mal. La mesure nous est étrangère, reconnaissons-le. Notre démangeaison, c'est justement la démangeaison de l'infini, de l'illimité. Tel le cavalier emporté par un coursier écumant, nous lâchons les rênes devant l'infini, nous, hommes modernes, nous, semi-barbares. Un avocat des modernes répliquerait qu'en perdant ainsi le sens de ce que les anciens appelaient la mesure, les hommes se sont affranchis des limites où les confinait la tradition pour être plus libres, mais aussi pour reculer la mort et pour adoucir la vie sur terre. Au crédit du prométhéisme des modernes, il faut mettre notamment les antibiotiques et l'anesthésie. On dit à juste titre que les modernes sont ingrats envers le passé, mais n'est-ce pas faire preuve d'ingratitude et d'inconséquence que d'appeler les modernes à la modération, tout en jouissant sans vergogne des bienfaits de la démangeaison de l'illimité ? Olivier Rey.
Écoutez, dans mon travail, je suis parti d'un constat qui est celui des maux qui grèvent aujourd'hui notre monde. Alors je tiens à préciser d'emblée que ni l'existence de maux, ni leur nombre n'est une spécificité contemporaine, puisqu'à quelque époque que ce soit, depuis qu'il y a des hommes, il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas. Cela étant, ça n'est nullement une raison pour ne pas nous inquiéter et pour nous dire que d'une manière ou d'une autre, les choses vont finir par s'arranger. La force des choses conduit à la catastrophe, disait Walter Benjamin. Et c'est parce qu'à chaque époque, des personnes se sont inquiétées et alarmées et ont refusé de s'en remettre à la seule force des choses que le monde humain a pu continuer. Donc l'existence de mots est constante, mais leur nature, elle, change avec le temps. Et ce qui importe avant tout, me semble-t-il, c'est de savoir caractériser correctement non les mots des temps passés, non les mots du début des temps modernes, mais ceux auxquels nous avons affaire aujourd'hui, à notre époque. Alors malheureusement, lorsqu'on cherche à appréhender les mots contemporains, on se trouve un peu découragé par leur nombre, leur diversité, leur ampleur. Et il m'a semblé que pourtant, la plupart de ces mots avaient un point commun, qui permet intellectuellement au moins de les rassembler, et c'était de dire qu'ils étaient liés à une perte de mesure. Alors Platon distingue deux sections dans l'art de mesurer. D'une part, la mesure d'une grandeur par rapport à une autre, comme lorsqu'on arpente ou qu'on pèse, et puis de l'autre, la mesure en tant que juste mesure. Et ce que l'on voit, c'est que les sociétés modernes s'adonnent avec frénésie au premier type de mesure. On mesure absolument tout aujourd'hui. Il y a des capteurs partout, des indicateurs numériques de tout. Mais en même temps, la mesure en tant que juste mesure a été complètement oubliée. Et c'est ce qui a permis que dans beaucoup de domaines, les choses croissent au-delà du raisonnable, au-delà du bénéfique et du contrôlable, qu'on dépasse ce que Illich appelait les seuils de contre-productivité. Et Léopold Kohr, un penseur austro-américain malheureusement pas assez connu, a résumé cela dans une formule que je cite. Il semble qu'il n'y ait qu'une seule cause derrière toutes les formes de misère sociale, la taille excessive. La taille excessive apparaît comme le seul et unique problème imprégnant toute la création. Partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros. Fin de citation. Il est clair que l'assertion, dans sa prétention à l'universalité, est exagérée. Ce qui est bon n'est pas le petit, mais le proportionné. Mais à notre époque, en proie aux excroissances monstrueuses, elle a le mérite d'indiquer de quel côté se situe le problème.
Oui, mais quand même... Je me fais une dernière fois, Olivier Rey, avant de passer la parole à Rémi Brague, l'avocat de cette modernité, et je vous citerai Victor Hugo cette fois-ci. Victor Hugo, justement, figure tout à fait étrange, parce qu'on pourrait dire de lui que c'est un romantique des Lumières. Eh bien, dans Les Travailleurs de la mer, il fait l'éloge précisément de cette capacité humaine de répliquer à la limite par l'enjambé. Le monde, œuvre de Dieu, est le canevas de l'homme. L'homme, ce vivant à brève échéance, ce perpétuel mourant, entreprend l'infini. Il entend faire ce que bon lui semble. Un univers est une matière première. Le monde, œuvre de Dieu, donc le canevas de l'homme. Tout borne l'homme, mais rien ne l'arrête. Il réplique à la limite par l'enjambée. L'impossible est une frontière toujours reculante. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que nous ne pouvons pas partager l'optimisme de Victor Hugo aujourd'hui, alors même, je l'ai dit en commençant, que cet optimisme, cette capacité humaine de dépassement, eh bien, nous fait vivre dans un confort que nos ancêtres ne connaissaient pas. Et pas seulement nos ancêtres, nos aïeux les plus, nos ascendants, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents.
Ben, je dirais simplement qu'un siècle et demi de progrès continu, avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour du mot progrès, s'est déroulé depuis Victor Hugo et que donc notre situation a changé. Et c'est ce que j'essayais de dire auparavant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'évaluer notre époque par rapport à celles qui les ont précédées, mais de ne pas traiter les problèmes spécifiques que nous avons dans notre temps en simplement les transposant à des époques où les problèmes se posaient en d'autres termes.
Rémi Brague.
Il y a sur la notion de confort un texte magnifique de Saint Thomas More. Thomas More, l'auteur de l'Utopie, que l'Église catholique a canonisé il n'y a pas très longtemps, a écrit un dialogue entre ce qu'il appelle le confort, donc comfort, et la tribulation. Et dans ce dialogue, le confort est à comprendre comme le réconfort qui nous vient au moment le plus creux de la tribulation. Nous en avons fait, pour des raisons qu'il faudrait raconter, le confort, c'est-à-dire justement le fait d'être bien dans sa peau, d'être bien dans son fauteuil. Et c'est peut-être justement ce confort qui nous invite à chercher nous-mêmes, si je puis dire, une certaine tribulation, à nous donner des excitations, à nous catapulter au-delà de la mesure. Non sans avoir au préalable, justement, défini, comme l'a fait Max Planck dans une phrase tout à fait célèbre, non sans avoir défini le réel comme ce qui peut être mesuré. Donc nous avons d'un côté un réel qui apparaît comme essentiellement mesurable, et puis dans lequel nous essayons de nous installer confortablement, justement. Et précisément à cause de ce confort, eh bien, nous cherchons sans cesse à le dépasser, à l'outrepasser, à risquer des aventures au-delà, plus ultra. Nous cherchons à franchir les colonnes d'Hercule. C'est déjà la devise de Charles Quint, comme chacun sait, contredisant donc la phrase du demi-dieu Hercule, disant « bon, tu n'iras pas plus loin ». Que ces colonnes, qui sont maintenant ce que l'on appelle le détroit de Gibraltar, Charles Quint en avait fait sa devise parce que ses vaisseaux allaient jusqu'au Nouveau Monde, et Francis Bacon, au début du XVIIe siècle, a repris la formule dans le frontispice de son œuvre majeure, sans doute le Novum Organon, le nouvel instrument permettant à l'homme d'obtenir le maximum de confort. Et nous en sommes, d'une certaine manière, restés là.
Mais alors, Rémi Brac, j'opposais Victor Hugo à Olivier Rey. Là, je vais vous faire l'objection de Michel Serres. Michel Serres est un philosophe qui ne supporte pas le pessimisme de certains de ses contemporains. Et il ne le supporte pas en fonction de ce qu'il a vécu. Il écrit dans Omniscience, avec un double frisson de gel et de dégoût, mon corps se souvient encore d'intérieur où, habillé comme dehors, tant le froid y dominait, les résidents délicats se lavaient aux fêtes carillonnées. Il rappelle que la médecine s'est mise à guérir autour de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'elle n'avait pas vraiment réussi d'Hippocrate à Galien, la Hénèque Jenner et Semmelweis. Ce qui a bouleversé notre rapport à la santé, il a cette phrase « la population vieillit, ce verbe n'a plus le même sens », non seulement change le corps des individus, mais l'allure de la société, puisque précisément l'espérance de vie s'accroît d'un trimestre par an. Donc il témoigne de sa reconnaissance à une extrême modernité, parce qu'il a vu naître. C'est comme si lui-même avait vécu dans une temporalité antérieure où tout était vraiment très dur, et il acclame la douceur du contemporain. Alors, voilà, que lui répondez-vous ?
D'abord que ni le pessimisme, ni l'optimisme, en tout cas dans l'acception vulgaire de ces mots, c'est-à-dire, en un mot, les lunettes roses et les lunettes noires, ne sont des attitudes intellectuelles respectables. J'aime beaucoup la phrase de Bernanos disant oui. qu'un optimiste est un imbécile heureux, un pessimiste un imbécile triste. Alors, ce qui est parfaitement indéniable, c'est qu'effectivement, il y a des domaines sur lesquels nous avons connu un progrès extraordinaire. Je pense à l'anesthésie, par exemple, pour prendre justement encore un exemple médical auquel Michel Serres fait seulement allusion. Nous avons pu diminuer la quantité de douleur à un degré assez extraordinaire, jusqu'à l'annihiler quasiment. Ceci dit, nous avons évidemment tendance à regarder les choses à partir du point de vue présent et à favoriser ce point de vue. Il n'y a pas que le géocentrisme qui est existé, il n'y a pas que l'européocentrisme, il y a ce que l'on a appelé aussi le nostrocentrisme, enfin le fait de considérer que nous sommes dans notre situation actuelle ce que l'on a fait de mieux depuis le pain en tranche.
Chauvinisme du présent, en quelque sorte. Oui,
exactement, la formule est excellente. Un chauvinisme du présent qui fait que nous regardons le passé en n'en voyant que les côtés les plus noirs. Alors ça, c'est une tendance constante depuis qu'il y a des hommes et qui pensent. Ceci dit, le problème avec la modernité n'est pas de savoir si elle est meilleure que ce qui l'a précédé. Le problème est de savoir si elle va pouvoir continuer comme cela. Disons, s'il y a un pessimisme, ça n'est pas, il ne porte pas sur le présent, mais il porte sur la durabilité possible de ce présent. Et lorsque je plaide à contre-courant, et en le sachant très bien, pour une modération dans la modernité, pour une modernité à consommer avec modération, c'est parce que j'ai bien envie que ce progrès continue. Je trouve que l'histoire est tout à fait intéressante, j'ai envie de connaître la suite, la suite au prochain numéro, la question étant de savoir à quelles conditions il peut y avoir un prochain numéro.
C'est d'accord
oui,
avec ça.
Absolument, absolument. Ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est d'être véritablement conscient des conditions de possibilité dans le temps, des choses que nous avons acquises et auxquelles nous tenons. De ce point de vue-là aussi, il y a quelque chose que je trouve un peu dramatique pour l'histoire occidentale. C'est le fait que de la trilogie de tragédies qui avait été écrite sur Prométhée, seule la première est parvenue jusqu'à nous, c'est-à-dire qu'on se gargarise depuis des siècles aujourd'hui de la figure du Prométhée enchaîné qui envoie promener tous les dieux, mais ça n'était que le premier volet de la trilogie prométhéenne qui se terminait par un Prométhée délivré où Prométhée se réconciliait avec Zeus et grâce à cette réconciliation, le pouvoir de Zeus était précisément pérennisé. Et en se fixant sur le premier temps simplement de cette histoire prométhéenne, justement, on absolutise ce que Victor Hugo chantait, c'est-à-dire toujours cette enjambée, en oubliant toujours que pour les Grecs, il y avait cette grandeur de la transgression qui rentrait qui n'était qu'un moment à l'intérieur de la trajectoire complète qui devait ensuite aller vers une réconciliation. Et je pense que précisément, si à une certaine époque dans la modernité, il y a pu y avoir cette grandeur de la transgression, nous sommes aujourd'hui plutôt dans le moment où on devrait plutôt se rappeler du Prométhée délivré.
Mais justement, alors...
Comme dit Jonas, on est dans le Prométhée toujours plus déchaîné.
Vous citiez Benjamin, la catastrophe, c'est lorsque les choses suivent leur cours. Mais alors, pouvez-vous décrire quelles sont les composantes, quels sont les traits majeurs de cette catastrophe ? vous y faites référence, mais vous avez dit la taille excessive, mais peut-être pouvez-vous être un peu plus concret.
Il suffit de regarder à peu près n'importe quel secteur de la réalité pour voir les ravages précisément de la taille excessive. Alors évidemment, aujourd'hui, ce dont on parle le plus, ce sont l'écroulement des systèmes écologiques, qui ne fait d'ailleurs que commencer, puisque au cours du XXe siècle, si on lit des revues fort informées, des revues scientifiques, enfin on voit des spécialistes en écologie qui sont extrêmement pessimistes sur le devenir des systèmes écologiques. Donc ça, c'est la chose la plus évidente. Mais on pourrait dire qu'il y a aussi une forme d'écologie sociale et qu'à l'intérieur même de nos sociétés aussi, il y a des choses qui vont très très mal et qu'on peut sans doute aussi relier là à des pertes de mesure, d'une part dans la taille de nos sociétés et puis d'autre part dans la taille excessive aussi d'un certain nombre de systèmes administratifs, de tous ordres industriels qui se sont développés à l'intérieur et qui fait que je trouve que la thèse de Fukuyama sur la fin de l'histoire a été très critiquée, en particulier en France. Mais je pense qu'en elle, il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à cause d'un certain nombre de seuils en taille qui ont été dépassés, l'histoire s'est terminée pour laisser place à une sorte de gigantesque processus dans lequel nous sommes tous pris et que nous ne contrôlons absolument plus. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins dans l'histoire aujourd'hui que dans un énorme glissement de terrain dont il faut attendre la fin pour pouvoir espérer retrouver une certaine maîtrise de ce qui nous arrive.
Rémi Brague.
L'histoire de Prométhée ne s'arrête pas à sa délivrance. Prométhée délivré, si je ne me trompe, ça n'est que la seconde pièce de la trilogie. Et dans la troisième, il se passe quelque chose qui se passe d'ailleurs de manière parallèle chez Eschyle, dans la tragédie que nous possédons, c'est-à-dire Agamemnon, les Coéphores, les Euménides, le mythe, disons, pan-hellénique, enfin, existant pour toute la Grèce, le mythe homérique, est rapatrié vers Athènes et devient, alors dans la trilogie que nous possédons, l'explication de la fondation du tribunal de l'Aréopage, et dans la trilogie sur Prométhée, donc celui qui a apporté le feu aux hommes, devient, pour ainsi dire, avec un anachronisme un peu ridicule, le saint patron de la corporation des forgerons. Et on a une représentation, bien entendu narrative, tout à fait intéressante, de la manière dont la technique, représentée par Prométhée, trouve sa place à l'intérieur de la cité, et d'une cité qui est gouvernée par des lois, pas seulement des décisions humaines, mais des lois intangibles, des lois éternelles, dont le garant et dont le symbole est Zeus. Donc, à la fin de la trilogie, tout rentre dans l'ordre, mais dans un ordre qui est soumis à l'ordre politique. La technique est soumise à la politique, qui décide de savoir s'il est bon de développer tel procédé, s'il est bon de laisser la bride sur le cou à telle ou telle forme d'énergie, etc. etc. C'est un peu la leçon dont nous devrions prendre de la graine. La mesure ne peut pas venir de la technique, elle ne peut venir que du politique.
Oui, alors elle ne peut venir que du politique. Mais il y a un problème. Vous citiez Olivier Rey, Ancionas, le principe responsabilité, ce sont les premières lignes. Le Prométhée définitivement déchaîné auquel la science confère des forces jamais encore connues et l'économie, son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme d'être une malédiction pour lui. Une éthique, mais cette éthique, c'est une éthique collective, donc c'est aussi une politique. Mais on constate que s'il est vrai qu'un processus existe, il y a aussi un appétit humain pour que ça continue, parce que ce processus est quand même porteur d'une espérance ou d'une promesse, je le disais en commençant, reculer la mort, sinon même abolir la mort. On va vers cela. Et j'ai été très frappé personnellement par l'un des derniers textes de Jonas, du fardeau et de la grâce d'être mortel. Comme si il fallait, pour que quelque chose survienne, que l'homme puisse se réconcilier avec sa propre finitude. qu'il y ait une grâce d'être mortel. Et il termine en disant, quant à chacun d'entre nous, le fait de savoir que nous ne sommes ici que brièvement et qu'une limite non négociable est imposée à notre espérance de vie peut même être nécessaire comme un encouragement à compter nos jours et à les faire compter. C'est Disraeli qui disait « la vie est trop brève pour être petite ». Bien. Alors, est-ce que il faut aller dans ce sens? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces formulations quasi testamentaires de Jonas? Il avait 90 ans, je crois, quand il a tenu cette conférence. Est-ce qu'il y a un moyen, à ce moment-là, pour l'homme, de se réconcilier avec sa finitude? Rémy Braque.
Ce n'est pas commode. J'ai traduit, dans une autre vie, un petit texte de Hans Jonas, un article simplement, dans lequel il disait que nous devrions nous créer des tabous. Et il employait ce terme qui maintenant est une sorte de poubelle universelle dans laquelle on jette tout ce que l'on n'aime pas. Et il employait ce terme de tabou avec sans doute un sens de la provocation. La question est de savoir justement si la mort est un tabou ou si au contraire, eh bien, c'est la... disons, le signe de notre individualité, enfin, le fait que nous devons mourir est le garant que nous sommes des individus. La mort est ce que je suis le seul à pouvoir, non pas faire, parce qu'on ne peut pas la faire, bien que le suicide soit, la possibilité du suicide soit aussi un signe de la grandeur de l'homme. La mort est quelque chose qui ne peut arriver qu'à moi. Pensez à toutes les analyses de Heidegger sur le passage du « on meurt » à eh « ben, c'est moi qui m'y colle cette fois hein, ». Il a une note sur le récit de Tolstoï, « La mort d'Ivan Illich », qui montre bien ce passage justement de la mort comme quelque chose qui arrive à la mort et qui est quelque chose qui m'arrive à moi. Abolir la mort est un assez vieux rêve et qui a pour pendant, pour ombre portée, si l'on veut, le fait de ne plus avoir à engendrer des enfants. Je pense là à l'œuvre de quelqu'un qui est assez peu connu en France, mais qui a connu son heure d'immense célébrité en Russie. Quelqu'un qui s'appelait Fiodorov, qui était un obscur bibliothécaire à Saint-Pétersbourg, si je me souviens bien, et qui prêchait, peut-on dire, en faveur d'une abolition de la mort, bien entendu, par des moyens techniques qui n'étaient pas encore même imaginables à l'époque, mais qui devaient devenir réels. Et il plaidait non seulement en faveur d'une abolition de la mort, c'est un rêve que l'on retrouve jusqu'en Russie soviétique, peut-être le cadavre de Lénine avait-il été embaumé pour pouvoir bénéficier, lorsque la science aurait suffisamment progressé, d'une résurrection scientifique. Eh bien, ce bonhomme pensait que nous devions remplacer l'engendrement des enfants par la résurrection de nos pères. Il a un terme qui dit exactement cela. Nous devons ramener à la vie toutes les générations précédentes, puisque toutes les générations précédentes ont été sacrifiées pour que nous puissions atteindre le degré de confort qui est le nôtre. Ça, c'est vrai à chaque époque. Et à l'époque dernière de l'humanité, là où la mort aura été abolie, ben nous devrons faire remonter, si l'on peut dire, cette vague d'immortalité vers le passé et redonner vie par des moyens qui restent à préciser à Adam, en fait. Hein, c'est un peu la reprise sécularisée de l'idée chrétienne selon laquelle le Christ a été crucifié à l'endroit même où Adam avait été enterré et de manière à ce que le sang de la croix puisse redonner vie aux ossements du premier homme. Alors ce rêve d'abolir la mort, eh bien, il a des conséquences qui ne sont pas toutes aussi roses qu'on ne le pourrait penser. De même qu'ont des conséquences assez funestes toutes les idées de créer une humanité améliorée, qui serait évidemment l'incandescence.
Oui, des de conséquences funestes, mais il y a un appétit des hommes vers. Enfin, les hommes sont sensibles à ce rêve, d'où ma question. Y a-t-il un moyen de réconcilier l'humanité avec la finitude? L'humanité occidentale, l'humanité qui vit dans le confort, l'humanité privilégiée.
Oh, bah, je crois que la force des choses y conduira. Vous savez, les transhumanistes qui promettent monts et merveilles, et en particulier la disparition de la mort, je pense qu'ils se divisent en deux groupes, qui sont les cyniques et les idiots utiles. Au service de la continuation d'une hubris industrialo-technique, au moment où celle-ci, comme on le voit bien, elle se met à engendrer de plus en plus de problèmes. Et je ne nie absolument pas tous les avantages que nous avons tirés d'un certain développement industrialo-technique. La question, c'est ce que disait Kant. Kant disait qu'il n'y a rien d'absolument bon ici-bas, sinon une volonté bonne. Pour le reste, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Alors, il se trouve que quand on se met à développer une technique, en général, c'est pour ça qu'on le fait, c'est qu'au départ, elle a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais nécessairement, à partir d'un certain stade de développement, les inconvénients se mettent à primer sur les avantages. C'est pour ça que dire que parce que pendant plusieurs siècles, on a tiré énormément d'avantages d'un certain développement, dire qu'il faut absolument le continuer et que toute personne qui s'y oppose aujourd'hui, elle est réputée être absolument contre la technique et être pour un retour à l'âge des cavernes. Il me semble que ce n'est pas du tout la,
non.
C'est pas du tout la question. Il faut prendre la technique telle qu'elle est aujourd'hui.
Oui, telle qu'elle est. Mais justement, vous dites, évidemment, l'utopie transhumaniste n'a aucune chance de se réaliser. Mais ce qui vient, c'est une forme d'eugénisme avec, le diagnostic pré-implantatoire ou bien la médecine prédictive. Tout ce qui pourrait améliorer notre vie, sinon en abolissant la mort, du moins en reculant la mort. Tout cela, on le voit s'installer. Donc l'hubris est à l'œuvre. Le rêve ultime ne se réalisera jamais. Mais l'hubris est à l'œuvre. C'est un processus, mais c'est un processus dans lequel quand même la volonté des hommes est engagée. Pour dénouer tout cela, il me semble qu'en effet, Hans Jonas nous parle de la grâce d'être moderne. Mais est-il possible, aujourd'hui, d'entendre ce discours? C'était peut-être plus facile à une époque où l'on croyait à la vie éternelle. Peut-être contre Rémy Braque, je crois que cette époque est révolue, Olivier Rey.
Oui, il y a aussi, il y a énormément à dire, mais juste un mot à propos d'un événement qui avait beaucoup marqué Ivan Illich à l'époque où il vivait au Mexique.
Oui, c'est pas le héros de Tolstoï là en l'occurrence,
non,
c'est
non,
Ivan
non.
Illich.
voilà.
Ivan Illich, auquel vous consacrez d'ailleurs de nombreuses pages dans
voilà.
Une question de taille.
Quand il vivait au Mexique dans les années 60 et jusqu'au milieu des années 70, il avait été très frappé par une loi qui était passée au Mexique qui faisait obligation à tout Mexicain, lorsqu'il y avait une mort, de faire appel à un service de pompe funèbre. Parce que Illich vivait dans une petite localité mexicaine où, lorsque une mort survenait dans le village, eh bien, c'était le village qui prenait en charge tout le rite funéraire, le lavage du corps, sa préparation, la fabrication du cercueil, la procession, l'enterrement proprement dit, etc. Et quand on y réfléchit, on sait que les plus anciennes traces d'humanisation que l'on possède par l'archéologie, ce sont précisément celles des rites funéraires. Et ce que voyait Illich au Mexique, c'était la désappropriation vis-à-vis de ces populations de ce qui est parmi les plus anciens rites humains. Quand vous parlez du fait de pouvoir aussi se réconcilier à travers sa finitude, vous placez toujours la question sur un plan, on pourrait dire, spirituel. Mais il y a aussi un plan extrêmement matériel. Et je pense que cet énorme problème que nous avons peut-être aujourd'hui avec la finitude, ça vient aussi de ce qu'on l'a complètement mise à l'écart dans sa concrétude. Et c'est peut-être aussi il ne faut pas du tout mépriser ces choses concrètes, parce que notre esprit, il est en permanent dialogue avec des gestes très concrets.
Rémy Braque.
En fait, le problème de l'acceptation de la finitude, de l'acceptation de la mesure qui est la, la forme la plus générale, si l'on peut dire, de la finitude. Enfin, la finitude étant la mesure appliquée à l'humain en tant que tel, en tant que naissant et mourant. Eh bien, cette pensée de la mesure est devenue plus difficile à cause d'une révolution de nature cosmologique. Pour les Grecs, la notion de mesure était, pour ainsi dire, en phase avec la vision du cosmos qu'ils avaient. Et quand je dis la vision du cosmos, c'est presque une tautologie, puisque cosmos veut justement dire le bel ordre, hein, l'ordre dont la régularité même est source de beauté, et une beauté qui est d'ailleurs visible à l'œil nu, pourrait-on dire, et même au sens très propre de cela, puisque c'est avant l'invention de la lunette, puis du télescope, visible à l'œil nu, et bien dans la régularité des mouvements célestes. Visible à l'œil mathématicien également, puisque les irrégularités dans les parcours des planètes, des astres errants, que par définition, ces irrégularités peuvent être rappelées à l'ordre, si j'ose dire, par les calculs des astronomes, qui peuvent ainsi sauver les phénomènes. Nous sommes passés de cette vision harmonique du monde à l'idée suivant laquelle l'univers, non plus le cosmos, mais l'univers, est en fait une foire d'empoigne, une grande foire d'empoigne, mais dans laquelle, de même que sur Terre, les gros poissons mangent les petits, et bien au ciel, les gros corps célestes, les grosses planètes attirent les satellites. Donc, il y a derrière toute cette idée de mesure ou de démesure une sorte de choix sur ce qu'il en est du monde lui-même.
On ne peut pas revenir à la vision grecque du cosmos.
On ne peut pas revenir à la vision grecque du cosmos, mais on peut, ça c'est mon opinion et je la partage,
vous avez raison.
Revenir à l'idée de création.
Ah.
À l'idée de création, c'est-à-dire l'affirmation biblique, aussi présente dans le judaïsme que dans le christianisme, puisque c'est tout au début de la Bible, selon laquelle tout cela est très bon. Tout cela est la création d'un Dieu bienveillant. Bon. Sans cela, c'est quand même plus difficile de penser quelque chose comme la mesure.
Mais
comme...
attendez, Rémy Brague, oui. La mesure, la finitude. Le christianisme nous aide à retirer à la mort son dard venimeux, pour parler comme saint Paul, parce qu'il nous dit quand même que la mort, ce n'est pas la fin. Il y a autre chose, il y a un au-delà, il y a une espérance. Il me semble que les modernes sont orphelins de cette espérance et que, voilà, je ne vois pas comment on pourrait revenir à une autre situation, d'où une panique, une peur précisément qui anime leur courage, leur intrépidité. On pratique l'enjambé parce que, justement, c'est cette peur qui est à l'œuvre, c'est cette peur qui est notre aiguillon fondamental, Rémy Brague.
Tout à fait. Enfin, je partage aussi bien personnellement, existentiellement, si je puis dire, la difficulté que vous avez et que nous sommes loin d'être les seuls à éprouver à penser quelque chose comme ce que je viens de dire, ma contre-question serait, est-ce que nous pouvons continuer sans ? Je veux dire, nous avons une sorte d'impossibilité nécessaire. L'enjambée peut-elle céder le pas, pour rester dans les mêmes métaphores, au saut ? S.A.U.T. de la foi, bon, bah, c'est une question pour chacun de nous, mais c'est aussi une question pour notre civilisation. Enfin, pouvons-nous faire sans ? Pouvons-nous nous passer de cela ? Pouvons-nous continuer sans ? Et là, je ne suis pas très, très hardi, je ne suis pas très faro à ce sujet. Je me demande si nous pouvons justement, à long terme, nous passer de quelque chose comme ce que je viens de dire.
Olivier Rey.
Je voulais juste faire une remarque sur ce que Rémi Braque disait du cosmos comme bon ordre, bel ordre, harmonie, qu'on entend encore dans le français moderne cosmétique. Mmh. Il est clair que la science moderne a dynamité ce cosmos pour le remplacer par un univers régi de part en part par des lois mathématiques. C'est à peu près ce qui se passe à l'époque de Galilée. Mais une chose qui m'a beaucoup intéressé en étudiant Galilée, c'est le livre, le dernier ouvrage qu'il a rédigé tout à la fin de sa vie. Il avait compris que s'intéresser aux problèmes cosmologiques, bon, il valait mieux quand même à ce moment-là s'en abstenir après son procès de 1633. Et à la fin de sa vie, il a écrit un livre extrêmement intéressant, un discours concernant deux sciences nouvelles, dont l'une des deux est la résistance des matériaux. Et en fait, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a une chose extrêmement importante qui apparaît dans cet ouvrage. C'est que Galilée comprend que le monde n'est pas invariant par changement d'échelle et que, en fait, la taille des choses, on peut prouver mathématiquement que les choses n'ont pas la taille qu'elles ont par hasard et que, en particulier, lorsque l'on a une chose, on ne va pas pouvoir la faire grossir ou la faire grandir en lui gardant par ailleurs toutes ses autres caractéristiques parce que la taille est quelque chose d'absolument essentiel. Et ce texte de Galilée est extrêmement intéressant parce que là, en fait, finalement, Galilée, qui a été un grand fossoyeur, on pourrait dire, du cosmos des anciens et des médiévaux, donne une piste pour refonder scientifiquement, sur les bases même de la science moderne et des mathématiques, un certain sens de la mesure. Et ce qu'il y a d'assez dramatique, c'est que précisément, on s'est polarisé, si vous voulez, sur le Galilée dynamiteur, et pas du tout sur le Galilée de la fin, qui pourrait refonder une forme de sagesse sur de nouvelles bases. Et une des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait, c'est quelque chose qui, là, je pense aussi, est assez dramatique, qui s'est déroulé au cours des derniers siècles. Vous savez, Heidegger disait que l'université, normalement, elle devrait être divisée en trois facultés. D'un côté, les sciences, de l'autre côté, les lettres, et puis une troisième faculté qui aurait regroupé la philosophie et les mathématiques. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque les mathématiques ont été versées du côté des sciences et la philosophie a été versée du côté des lettres. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où les philosophes ont été versés du côté des lettres, ils ont dit, bon, tout ce qui est quantitatif, tout ce qui est compté, etc., ça n'est plus notre affaire, c'est l'affaire des scientifiques, qu'ils comptent, nous. Et ils ont imité, si vous voulez, comme les seigneurs des temps passés qui, dans leur largesse, ne comptaient pas, et se sont mis à élaborer toute une pensée conceptuelle complètement déconnectée de toute considération quantitative. Et ils ont élaboré des concepts sans se rendre compte qu'un concept a toujours un horizon quantitatif de validité, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on emploie un vocabulaire qui ne nous permet pas de nommer les choses parce qu'on a des termes beaucoup trop limités, parce qu'on emploie le même terme pour désigner des entités, si vous voulez, qui, lorsqu'elles changent de taille, changent également de nature.
Alors, en effet, rares sont les philosophes qui comptent. Il y en a un, cependant, qui a d'abord été philosophe, puis anthropologue, qui a beaucoup compté. Vous le citez, Olivier Rey, et je voudrais savoir ce qu'en pense Rémi Braque. Il s'agit de Lévi-Strauss, extraordinairement sensible à la catastrophe écologique qui menace, mais pour lui,
et anthropologique,
au fondement de cette catastrophe, il y a la démographie, hein. C'est ça le grand problème de la taille excessive, selon Lévi-Strauss. Il le disait dans un entretien au début de ce siècle avec Didier Héribon dans Le Nouvel Observateur. Quand je suis né, il y avait sur la Terre 1,5 milliard d'habitants. Après mes études, quand je suis entré dans la vie professionnelle, 2 milliards. Il y en a 6 aujourd'hui, 8 ou 9 demain. Ce n'est plus le monde que j'ai connu, aimé ou que je peux concevoir. C'est pour moi un monde inconcevable. On nous dit qu'il y aura un palier suivi d'une redescente vers 2050. Je veux bien, mais les désastres causés dans l'intervalle ne seront jamais rattrapés. Et vous citez Henri Michaud, c'est ce qui n'est pas l'homme autour de lui qui rend l'homme humain. Plus sur Terre il y a d'hommes, plus il y a d'exaspération. Alors là, je me tourne vers vous, Rémi Braque, parce qu'il ne me semble pas, à vous avoir lu, que vous soyez d'accord avec une telle argumentation.
Si l'on veut dire que plus il y a d'hommes, mieux c'est, bon, je ne vois pas pourquoi on le dirait. Si, en revanche, on se lance dans des pronostics en direction, disons, du cauchemar d'une explosion démographique, là, je crois que l'on a une bonne génération de retard. J'avais été assez frappé dans le livre dont vous avez eu la gentillesse de parler, « Modérément moderne », je cite cet auteur, qui a été le directeur de l'Institut français de démographie, je ne me souviens plus du titre, enfin, du sigle, enfin, en tout cas il s'appelait Jean Bourgeois-Pichat, et il écrit posément que, si, à supposer que les populations mondiales doivent emboîter le pas aux pratiques démographiques des pays européens, il pensait à l'époque surtout à l'Allemagne. Maintenant, l'Espagne et l'Italie l'ont largement rattrapé. Si ça devait continuer comme ça, eh bien, l'humanité disparaîtrait, il emploie le mot, vers 2400, peut-être 2500, si nous avons de la chance. Alors, je n'y connais rien en technique démographique, mais cela m'a donné l'occasion de poser un problème philosophique. Qui est à supposer que l'humanité disparaisse, est-ce que ça serait vraiment un mal? Il y a des voix qui s'élèvent maintenant pour dire que non, ça serait plutôt l'émancipation des autres espèces, la libération de la vie sur Terre qui est empoisonnée par cette espèce de parasite humain. Si on retourne la question, il faut se demander pourquoi est-il bon, adjectif bref, indéfinissable mais indispensable, pourquoi est-il bon qu'il y ait des hommes sur la Terre? Et la réponse n'est pas si facile que cela. J'ai essayé de montrer qu'elle devient de plus en plus difficile à partir de, disons, du moment où, d'une part, l'humanité dispose des moyens d'en finir, des moyens techniques d'en finir, moyens variés, et où, d'autre part, elle se met à douter de sa propre légitimité, en se disant, finalement, nous ne sommes que une espèce animale comme une autre, nous sommes peut-être la pire de toutes ces espèces, la plus dangereuse pour la vie, et donc, si on devait disparaître, bon débarras. Alors, comment faire face à ce genre de questions?
Mais vous prenez au sérieux donc ce pronostic, alors même qu'il y a de moins en moins d'absence au monde. Vous pouvez aller en effet en Nouvelle-Zélande ou en Europe, en Écosse, mais pour le reste, je veux dire, le monde est de plus en plus densément peuplé. Je me souviens du rapport Attali, là, 50 propositions, 100 propositions pour la France. Il imaginait dans un avenir proche la création de 50 villes nouvelles, toutes plus écologiques les unes que les autres, et c'était une prédiction absolument terrifiante. La France va connaître 70 millions d'habitants et on en voit les conséquences, la disparition de l'opposition entre la ville et la campagne, un périurbain qui couvre, qui maille entièrement le territoire. Donc on a du mal à, en effet, il est assez difficile de se projeter dans un avenir où il n'y aurait plus d'hommes, étant donné ce que nous avons sous nos yeux, cette exaspération permanente des hommes les uns vis-à-vis des autres dans un monde de plus en plus densément peuplé.
Alors justement, ce qui est tout à fait amusant, c'est que la faiblesse démographique affecte les peuples qui ont été touchés par la modernisation. Et au contraire, les gros bataillons démographiques, si je puis dire, viennent de pays qui n'ont pas été ou qui n'ont pas encore été touchés par ce que j'appelle de manière tout à fait irrespectueuse la modernite. Maladie dont je tire le nom de la modernité simplement en retirant l'accent grave. Je souhaite d'ailleurs que mon accent soit le plus grave possible, puisqu'il s'agit de choses d'une grande gravité, savoir est-ce que la modernité est compatible avec la poursuite de la vie humaine. Car enfin, on nous dit, et on a tout à fait raison, que contre l'explosion de la population, ce qu'il faut, c'est davantage d'éducation. Bravo! Bravo, c'est merveilleux, c'est en tout cas infiniment mieux que les stérilisations forcées auxquelles on procède dans certains coins du monde. Bon. Mais cela veut dire que plus on est intelligent, moins on est fécond.
Ah oui.
Bon, et alors si l'humanité doit continuer à se laisser éclairer, si les lumières doivent progresser, elle risque de se transformer en un incendie.
Oui, enfin, moi j'ai du mal à me sentir vraiment très inquiet à l'idée qu'une modernisation générale du monde conduirait à l'extinction de l'humanité, parce que là, c'est se projeter dans des époques justement dont on ne sait pas très bien comment les choses se passeront à ce moment-là, ce que les gens penseront à cette époque-là. Autant je disais tout à l'heure qu'il fallait se garder de projeter des éléments du passé de manière trop unilatérale sur notre présent, parce qu'on manquait la spécificité du présent. Donc l'avenir aura certainement aussi sa spécificité, sur lesquelles il ne faut pas trop plaquer, je crois, les phénomènes présents. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est quand même plutôt un certain encombrement. Alors cela étant, il faut se garder de faire porter l'essentiel du problème sur le nombre d'êtres humains à la surface de la Terre.
Parce que c'était le cas de Lévi-Strauss, en tout
oui,
cas.
Oui, mais n'empêche que le gros problème ne vient de... Oui et non, parce que le problème ne vient pas tellement du nombre de personnes à la surface de la Terre que de leur mode de vie. Par exemple, l'accélération de la vitesse à laquelle on se promène sur la Terre, en fait, est largement aussi importante que le nombre d'êtres humains. Si chacun d'entre nous vivait dans un village, comme au Moyen-Âge, hein, vivait dans un village et où il passait sa vie sans s'éloigner de plus de quelques dizaines de kilomètres de son lieu de naissance, finalement, pour la plupart d'entre nous, nous ignorerions complètement qu'il y a beaucoup d'hommes sur la Terre et la vie n'aurait pas changé. Donc ce qui rend la situation explosive, c'est le couplage du nombre d'êtres humains sur la Terre avec un certain développement technique qui sollicite énormément les ressources, etc. Parce que sinon, si vous voulez, dans la tribu amazonienne, elle pourrait continuer à vivre comme elle a toujours vécu et pour elle, absolument...
Ne souhaitons pas non plus rien devenir des tribus amazoniennes.
Non, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas simplement oui. voir le problème uniquement non, du, point pas, de
du point de vue
du point de vue du nombre. Et il me semble que une chose importante, ce serait que plus nous sommes nombreux sur la Terre, plus il faudrait prendre garde à vivre en petite société. Et un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est non seulement que nous sommes très nombreux, mais c'est que nous nous rassemblons aussi dans des sociétés qui sont beaucoup trop grandes.
Oui, mais alors, soyons un peu plus métaphysiques, précisément. Vous écrivez, Rémi Brague, que vous vous demandez si finalement nous allons être submergés par les barbares qui pourraient déferler sur nos côtes. Et vous dites, hélas, non, car ils ne sont pas si abondants que ça sur le marché. C'est un paradoxe, et en effet, assez étonnant. Mais si j'en reste simplement au plan métaphysique, justement, il y a des rapports des Nations Unies ou de l'Union Européenne qui disent qu'il faut une immigration de remplacement pour revitaliser les régions vieillissantes, pour se substituer à des populations incapables de se reproduire. Ça veut dire que nous sommes dans la situation technique décrite par Heidegger, c'est-à-dire être, c'est être remplaçable. Voilà. Les hommes sont substituables les uns aux autres. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, en Europe notamment, c'est que ça ne fonctionne pas ainsi, il y a un choc des cultures. D'où d'ailleurs le questionnement de Lévi-Strauss, qui s'intéressait au nombre et qui osait parler avec le soutien de Jean Daniel, mais c'était bien le seul, à gauche, de seuil de tolérance. Eh oui, c'est pas possible. Donc, mais en même temps, vous vous dites, bah, ça serait peut-être bien. Donc vous êtes tellement avide d'un avenir de l'humanité sur la Terre que vous semblez donner crédit à cette affirmation selon laquelle les hommes sont substituables les uns aux autres. Rémi Brague.
Je ne suis avide de rien du tout. J'essaye simplement de pousser la logique des raisonnements.
Oui.
Jusqu'au bout. Et c'est jusqu'au bout où il se renverse. J'ai simplement fait allusion au fait que les pays industriels vivent actuellement sous perfusion et que cette perfusion vient de régions dans lesquelles les lumières n'ont pas encore effectué leur travail. Et donc le souhait le plus cher de ceux qui défendent nos civilisations éclairées est que ces lumières s'arrêtent, puisque si elles devaient continuer, eh bien, la base humaine qui permet cette civilisation, que j'approuve et dont je jouis paisiblement et avec reconnaissance et avec gratitude, la base humaine pourrait tout simplement venir à manquer. Donc nous sommes là devant une forme extrêmement concrète de cette fameuse dialectique des Lumières qui a été nommée et dénoncée dès la fin de la guerre par les gens de l'école de Francfort.
Un mot pour finir, Olivier Rey ?
Bah écoutez, moi, ce qui m'a vraiment porté en écrivant le livre Une question de taille, hein, c'est l'idée que très souvent, le bien et le mal ne résident pas dans naissance de la chose ou d'un comportement, mais dans leur dosage. Et que c'est ainsi que pour la plupart des dispositifs, il existe un point en deçà duquel le développement est bénéfique et au-delà duquel il devient nocif.
Très bien.
Et se met à nous desservir.
Bon, très bien, là, ça réconciliera tout le monde, et même vous avec Lévi-Strauss. Je rappelle le titre de vos livres aussi passionnants l'un que l'autre, Rémy Brague, Modérément moderne, chez Flammarion. Vous allez publier au mois de mars Le règne de l'homme, aux éditions Gallimard, Rémy Brague, et Olivier Rey, Une question de taille, ce livre est publié chez Stock. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Le nazisme, crime et philosophie ». Mes invités seront Jean Chapoutot et Frédéric Rouvillois. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jehan Richard Dufour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.